Salut, c'est Noémie, la voix derrière le micro de The Storyline, et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je viens de publier mon livre, mon premier livre, aux éditions Erol sur le vaste sujet des communautés de marques et de leur impact sur les stratégies des entreprises et celles des entrepreneurs. Du coup, pour fêter ça, je vous propose un format un peu différent des interviews de marketeurs, d'experts, de communicants auxquels vous êtes habitués si vous écoutez déjà le podcast depuis un petit moment. Dans cet épisode, et chaque semaine du mois de septembre, ce sera juste moi derrière le micro, avec un format d'épisode très court, mais pensé pour vous apporter un maximum de valeur et pour vous faire découvrir le sujet des communautés de marque. Je vous propose donc sans plus attendre de découvrir dans cet épisode un extrait du livre, accompagné d'une notion théorique, d'un modèle ou d'un outil communautaire, ainsi que d'un cas d'usage concret pour vous donner des idées et alimenter votre propre stratégie marketing en vous aidant à passer de la théorie à la pratique. Je répéterai ce modèle très simple, donc notion théorique, modèle ou outil communautaire, puis cas d'usage concret, dans chacun des épisodes que je vous propose jusqu'à la fin du mois de septembre, pour vous aider à vous approprier concrètement les leviers et les outils et les rouages du community building. Pour plus de conseils et de ressources, ça se passe sur mon profil LinkedIn, où je poste des astuces et des réflexions, mais aussi dans mon livre, sur thestoryline.fr et sur le blog de communo.club. Autant vous dire que vous avez l'embarras du choix. Allez, c'est parti, je vous emmène en plongée dans l'univers du marketing de communauté. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour la quatrième capsule hors série de The Storyline, dédiée au sujet des communautés de marque. Cette semaine, j'avais envie de vous parler des évolutions profondes de la manière de faire du marketing ces dernières années et de leurs conséquences pour les marques. Vous connaissez maintenant le format de ces mini-épisodes. Je me lance donc avec l'extrait du jour de mon livre, Le pouvoir des communautés. Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine tempête et doivent traverser une crise profonde, celle de la confiance, justement. Les pratiques marketing peu respectueuses des consommateurs et de leur intégrité, couplées à d'autres éléments, ont contribué à fissurer le lien entre les marques et les individus. Et désormais, il est nécessaire de contribuer à restaurer cette confiance. Dans ce cadre de crise et de défiance généralisée, les marques doivent complètement repenser leurs stratégies et leurs approches marketing. Plutôt que de se contenter de brandir quelques arguments commerciaux pour vendre rapidement, elles doivent désormais apprendre à construire une relation avec leur audience, à faire preuve de plus de transparence vis-à-vis de cette dernière. C'est ce qu'Arnaud Carré, directeur général Brand Health and Healthcare Ipsos France, m'a expliqué il y a quelque temps au micro de mon podcast The Storyline. Pour lui, afin de rester pertinent, le marketing se doit de ne plus vendre du rêve, mais du vrai. Concrètement, cela signifie abandonner les promesses irréalistes et les discours de marque pompeux au profit d'un discours qui reflète la réalité du quotidien des consommateurs. Autrement dit, plutôt que de vendre de l'or, des paillettes et du fast, il est plus pertinent pour les entreprises de vendre du vrai, du concret et du pragmatique. Cela n'implique pas pour autant de devenir austère, bien sûr. Mais tout simplement que pour espérer trouver un écho auprès de sa cible, une marque doit désormais permettre à ses consommateurs de s'identifier à ses messages, de se retrouver dans ses engagements et ses valeurs. Bonne nouvelle. La communauté, de par son approche, qui consiste à mettre les individus au cœur des considérations de l'entreprise, répond entièrement à cette nouvelle nécessité. Est-elle sur le point de devenir centrale dans les stratégies de marque? Fin d'extrait. Bon, vous imaginez bien que selon moi, la réponse est évidemment un grand oui. Et honnêtement, les chiffres semblent aller dans ce sens également. Si on en croit une enquête de Adweek, 86% des consommateurs disent que l'authenticité est importante lorsqu'ils décident des marques qu'ils soutiennent. Quand on lit une étude de Sprout Social que j'avais trouvée en ligne il y a quelques temps, 80% des consommateurs pensent que le meilleur moyen pour les marques d'interagir avec eux est en créant une communauté. C'est énorme. Et d'après eMarketer, le contenu généré par la communauté a un taux d'engagement plus élevé que le contenu généré par la marque, avec un taux d'engagement moyen supérieur de 37%, plus d'un tiers. Franchement, ça dépote, non? Si vous n'êtes pas convaincu, je vous propose, comme c'est le principe dans chacune de ces capsules, comme vous le savez désormais, de découvrir un cas d'usage concret, au-delà des chiffres, même si selon moi ces chiffres sont quand même assez révélateurs et prouvent à quel point aujourd'hui, quand on consomme, l'acte de consommation et la décision de consommation sont profondément ancrés dans l'humain, que ce soit ses propres besoins ou la comparaison ou l'influence sociale de son propre réseau et de sa propre communauté et des communautés auxquelles on appartient. Bref, pour illustrer ce petit bout de théorie, je voulais vous parler d'un secteur dans lequel la confiance est au plus bas. J'ai nommé le secteur bancaire. qui est, on va pas se mentir, en PLS ces derniers temps. Parce que entre les scandales à répétition, les accusations de fraude, les crises, les opérations de greenwashing qui se succèdent et qui se ressemblent dans cet univers, bah, la plupart des banques souffrent d'une très très mauvaise presse depuis un bon bout de temps. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, quelques-unes d'entre elles ont justement choisi d'adopter une stratégie communautaire pour restaurer la confiance de leur clientèle. Et une d'entre elles, bah, c'est la néobanque Helios, qui est l'autoproclamée compte bancaire de ceux qui s'engagent pour la planète. Helios se décrit comme une banque engagée qui propose à ses clients d'ouvrir des comptes éthiques, entre guillemets. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon Helios, sur chaque compte, tout euro déposé permet de financer des projets d'accélération de la transition écologique dans des secteurs assez divers, comme l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la mobilité bas carbone, etc. etc. L'idée, c'est que l'argent que vous déposez sur votre compte bancaire est utilisé par la banque, non pas sur des projets de financement d'énergie pétrolière ou de gros projets qui sont souvent très, très néfastes pour la planète, mais plutôt pour des projets d'accélération de la transition écologique et de décarbonisation. Et l'entreprise Helios met un point d'honneur à communiquer des informations à sa communauté de manière transparente sur l'ensemble des projets financés, notamment, et c'est là que ça devient un cas d'usage très intéressant, sur les réseaux sociaux, encore eux, qui ressemblent plus à ceux d'une marque lifestyle en fait que d'une banque. Et c'est assez rigolo, je vous invite à aller voir leur feed qui est hyper humain, qui n'est pas chiadé, qui n'est pas figé, qui n'est pas trop formel comme on pourrait s'attendre à en voir un dans l'univers bancaire. Par exemple, donc sur Instagram, Helios compte plus de 15 000 followers et les clients sont à l'honneur et prennent la parole dans des vidéos hyper dynamiques. Et donc, la banque partage également les actualités liées à la transition écologique. Elle prodigue des conseils, des tutos pour moins polluer au quotidien et elle propose à ses clients, à ses ambassadeurs, à ses utilisateurs de faire des petites vidéos et de valoriser ses vidéos sur son propre compte Instagram. Et au-delà d'une audience assez florissante sur les réseaux sociaux, c'est en s'appuyant sur une vraie communauté de clients ultra engagés que Helios a pu concevoir son offre. En effet, la banque a consulté 2000 personnes, voire plus de 2000, je pense, pour construire son premier produit, le compte courant Helios. Et depuis, elle implique activement sa communauté dans la co-construction de sa feuille de route. Via l'application, en fait, tous les clients peuvent suggérer et voter pour des prochaines fonctionnalités. On pourrait se demander si cette approche marche, parce que c'est très beau dans la théorie et présenté comme ça. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 13 000 clients conquis sur les deux premières années d'activité d'Helios et des commentaires qui sont assez dithyrambiques laissés sur les différents sites de notation et de comparaison en ligne comme Trustpilot, MoralScore, etc. Bref, un très beau succès communautaire. Mais attention, gagner la confiance de sa communauté, c'est une chose, la garder, c'est une autre. Si vous communiquez autour d'actions vertueuses et que vous engagez votre communauté dans votre développement, vous allez certes créer de la confiance, mais il va vous falloir maintenir un niveau d'exigence et de vertu très 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 élevé vis-à-vis de votre pratique et de vos engagements. Au risque, si vous ne le faites pas, de voir vos membres se retourner contre vous s'ils sont déçus. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est malheureux, mais vous avez peut-être vu passer toutes les critiques qui ont été menées contre l'entreprise Patagonia, qui est pourtant présentée comme le poster child, ou enfin l'élève, l'enfant modèle du bon comportement et de l'entreprise à mission. Et Patagonia a récemment été accusée par une enquête des conditions de travail de certains de ses travailleurs qui, selon un média indépendant, ne sont pas si différentes que ça de celles des personnes qui vont bosser pour des grandes entreprises qui, elles, sont critiquées comme... Alors, je ne comparerai pas Patagonia à Nike ou Adidas, mais vous avez l'idée. Et donc, tout ça pour dire que quand on crée de la confiance et quand on se présente comme une entreprise vertueuse qui se met au service de ses clients, de sa communauté, attention à ne pas trébucher, à ne pas glisser, à ne pas aller vers l'option de facilité et faire des choses un petit peu crado, parce que si vous êtes découvert, la chute n'en sera que plus dure. L'approche communautaire, elle est exigeante dans ce sens qu'elle demande de toujours faire attention à rester digne, entre guillemets, de la confiance de ses membres. Et cet enjeu, il passe notamment par la définition de valeurs claires et d'une raison d'être de votre entreprise. Ce sera le sujet de la capsule de la semaine prochaine, qui sera aussi la dernière de ce hors-série. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode ? J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées. Si vous voulez plus de tips et de méthodes pour construire votre communauté, je vous invite vivement à commander mon livre « Le pouvoir des communautés ». Dans ce dernier, je décrypte la manière dont les communautés de marque peuvent offrir un avantage concurrentiel et également une amélioration de toutes les métriques de l'entreprise pour les organisations, mais aussi pour les entrepreneurs. Mais ce, bien sûr, à condition d'avoir la bonne stratégie et les bons outils. Et c'est bien évidemment ce que j'y partage, chapitre après chapitre. Le livre est disponible en librairie et sur Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur communo.club/livre. À très vite!